La région Sud soutient la DLVA.
Vice-présidente de la région, Eliane Bareil, a fait une halte à Manosque pour présenter les vœux 2020 du Conseil régional. Avec cette civilité sincère et amicale, Madame Bareil a également signé le CRET, le contrat régional d'équilibre territorial, engageant la région aux côtés de Durance-Luberon-Verdon agglomération sur des projets à hauteur de près de 6 millions d'euros. 5 960 209 euros, très précisément. Des fonds bienvenus pour plusieurs dossiers importants, la piscine communautaire, la construction d'un centre de formation au soudage industriel à Sainte-Tulle, l'aménagement d'une coulée verte, la construction d'un méthaniseur territorial ou encore l'aménagement autour de la gare de la Brianne, sans oublier le projet e-Green Provence de production, stockage et utilisation d'hydrogène vert pour les transports collectifs et particuliers. Ces projets s'inscrivent pleinement dans le plan climat de la région, une COP d'avance pour un mieux vivre en Provence, une neutralité carbone et une écologie au service de l'économie, souligne Eliane Bareil. Écoutons le maire et président de DLVA, Bernard Jeanmet, puis Eliane Bareil, sur cette aide forte, sonnante et trébuchante entre leurs collectivités. Bernard Jeanmet, vous êtes maire de Manosque et également président de la DLVA, la région qui amène 6 millions d'euros pour vos projets via le CRET. C'est important.
Bien sûr, c'est important et je pensais que d'après les réunions que nous avons eues avec la région à plusieurs reprises, je crois que là, on ne se doit que de remercier la région de l'aide qu'elle nous amène financièrement pour les projets qui ont été énumérés tout à l'heure.
Avec un accent particulier sur tout ce qui concerne l'environnement et notamment votre projet e-Green.
Oui, le projet e-Green, c'est un projet extrêmement important. On a la chance d'abord de produire de l'hydrogène vert avec des panneaux photovoltaïques qui ensuite, la production sera stockée dans les cavités de géométhane, ce qui amène un projet qui est complètement complet et qui amène, bien entendu, toutes les demandes qu'on pourra nous faire pour alimenter de l'hydrogène vert dans les différentes stations pour les bus, les vélos, les trains, etc., etc.
Vous avez évoqué évidemment aussi les déchets avec l'obligation tout simplement de sensibiliser les enfants aux déchets.
Aujourd'hui, on a une TGAP qui était de 8 euros il y a quelques années et qui va finir par monter à 65 euros peut-être la tonne. Et je crois qu'aujourd'hui, ça va faire exploser le financement des déchets. Donc il faut qu'on se prépare en amont à essayer de minimiser nos déchets. Et je suis persuadé qu'il faudra aussi qu'on trouve d'autres moyens autres que l'enfouissement.
Il y a aussi un outil pour lequel la région vous aide. Il s'agit de l'éco-campus. C'est un outil d'avenir.
On va avoir des formations qui vont se faire sur l'éco-campus. Et bien entendu, il va y avoir le CNAB, le Conservatoire des Arts et Métiers, qui vient, à partir de septembre, ouvrir des sections des arts et métiers à Manosque. Et je crois qu'ils auront peut-être la possibilité, et je pense qu'ils seront sensibilisés par les problèmes de l'hydrogène dans tout ce que ça peut comporter comme technologie importante que les quatre arts savent faire.
Le courant passe bien entre la DLVA et la région ?
Oui, elle passe très bien.
Elle est à vos côtés, la vice-présidente de la région, Eliane Bareil. Vous êtes venue annoncer des bonnes nouvelles et puis signer ce CRET. C'est un engagement fort de la région.
Oui, mais les contrats régionaux d'équilibre territorial, c'est avant tout un dispositif que l'on a souhaité pour mettre en place à disposition des territoires. Et là, on voit bien que sur ce territoire en particulier, qui est en plein développement économique, la région se doit d'être présente. Et d'être présente aux côtés de sujets très importants, comme le projet e-Green, certes, comme aussi le projet de méthaniseur. Donc la région se devait d'être ici pour porter sa contribution.
Vous avez parlé de l'évolution de la région et notamment vous avez dit que vous étiez une collectivité d'appui, vous êtes devenue une collectivité pivot.
Pivot parce que nous avons mis en place des stratégies, une stratégie régionale. Et nous voulons être initiateurs, on ne veut plus simplement être le tiroir caisse. On demande des subventions à la région, on les obtient, on ne les obtient pas et on fait. Non, c'est pas comme ça. On met en place des stratégies et au travers de ces stratégies, on engage des développements importants et notamment, on se veut être très très présent au niveau de l'économie.
Avec également cette année la déclaration de la COP d'avance, c'est-à-dire qu'il y a l'urgence climatique qui est décrétée en région sud.
Je crois que là-dessus, notre président Renaud Muselier a été vraiment un des précurseurs. Il a souhaité mettre en place le plan climat et la COP d'avance. Et on voit bien qu'on est en plein dans le cœur des problèmes actuels. Et donc dans tous nos dispositifs, nous les calons par rapport à notre COP d'avance, de façon justement à prendre en compte le changement climatique quasiment dans l'ensemble de nos dispositifs.
Vous avez évoqué également les fonds européens qui désormais sont attribués par le biais de la région.
Désormais, effectivement, les fonds européens passent par l'intermédiaire de la région. Mais je crois que nous avons la chance d'avoir eu comme président de région un député européen. Et donc grâce à lui, nous avons su ouvrir les portes des fonds européens. Aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, nous sommes passés d'un milliard à 3,3 milliards de fonds européens sur ce programme donc qui s'achève. Bien entendu, il faut continuer à faire autant et je l'espère mieux. Mais là encore, Renaud Muselier a impulsé cette dynamique de fonds européens. Et on voit bien que sur nos territoires en particulier, c'est extrêmement important.
Enfin, parlons d'avenir. Vous préparez aussi le futur plan État-Région 2021-2027.
C'est ça. Nous sommes en train de travailler sur le futur contrat de plan. La difficulté de ce contrat de plan, enfin, si je peux appeler une difficulté, c'est que il n'est plus, comme par le passé, il ne supporte plus les infrastructures. Donc il faut que l'on fasse des propositions en dehors des infrastructures qui soient conformes d'abord, encore une fois, à notre COP d'avance, mais qui en même temps servent nos territoires. Donc nous sommes en plein travail. Le vice-président en charge du CPER, Georges Leonetti, a fait une tournée dans chaque département pour lancer une concertation, voir ce qu'il était envisageable d'inscrire au futur CPER. Aujourd'hui, nous sommes en train de le bâtir avec l'État.
Vous-même, d'ailleurs, vous faites des tournées dans les départements pour présenter vos vœux, notamment, et vous serez bientôt à Digne pour parler éducation et lycée.
C'est ça. Aujourd'hui, on était territoire et la semaine prochaine, je serai à Digne au sein d'un lycée, d'ailleurs, même de deux, mais surtout au lycée Pierre-Gilles de Gênes, où je vais parler éducation, circuit court et alimentation.